Voici l'épreuve de compréhension orale, français programme court, automne 2011. Elle comprend 6 parties. Des instructions vous seront données avant chacune des parties. Écoutez attentivement l'enregistrement. Vos réponses doivent se baser sur les textes entendus. L'épreuve commence. Dans la première partie de l'épreuve, vous entendrez le récit de Michael. Vous l'entendrez d'abord en entier, puis en plusieurs sections. Voici le texte en entier.
Je m'appelle Michael, j'ai 17 ans et je suis lycéen. J'habite chez mes parents et ce sont eux qui me donnent de l'argent pour vivre. Ils me nourrissent, achètent mes vêtements et paient mon abonnement de téléphone portable. Et ils refusent rarement quand je leur demande de l'argent pour sortir. Mes parents tiennent une petite librairie et je les aide souvent. Comme ça, je gagne un petit peu d'argent. En plus, pendant les vacances scolaires, je travaille comme serveur parce que je ne veux pas tout le temps demander de l'argent à mes parents. Je ne dépense pas vraiment beaucoup en sortie. Je vais parfois voir des films. Les seuls restaurants sont des McDonald's. Nous faisons de temps en temps des soirées entre amis. Chacun y participe un peu en achetant quelque chose à boire ou à manger. Je suis fort en mathématiques. Je pourrais donc faire une école d'ingénieur, par exemple. Mais cela ne m'intéresse pas vraiment. Après mon bac, je vais m'orienter vers quelque chose qui me passionne, le théâtre. Je sais que c'est un choix risqué, parce que je n'aurai sans doute pas un salaire régulier, comme si j'étais ingénieur. En tout cas, je refuse absolument de faire quelque chose qui ne me plaît pas. Mais évidemment, j'espère quand même que mon futur métier me permettra de vivre correctement. C'est-à-dire d'avoir un appartement qui me plaise vraiment, acheté ou loué, peu importe, et de mener une vie normale. J'aimerais juste gagner assez pour qu'il me reste un peu d'argent pour mes loisirs.
Étudiez les questions 1 et 2.
Je m'appelle Michael, j'ai 17 ans et je suis lycéen. J'habite chez mes parents et ce sont eux qui me donnent de l'argent pour vivre. Ils me nourrissent, achètent mes vêtements et paient mon abonnement de téléphone portable. Et ils refusent rarement quand je leur demande de l'argent pour sortir. Mes parents tiennent une petite librairie et je les aide souvent. Comme ça, je gagne un petit peu d'argent. En plus, pendant les vacances scolaires, je travaille comme serveur parce que je ne veux pas tout le temps demander de l'argent à mes parents.
Répondez aux questions 1 et 2 et étudiez la question 3.
Je ne dépense pas vraiment beaucoup en sortie. Je vais parfois voir des films. Les seuls restaurants sont des McDonald's. Nous faisons de temps en temps des soirées entre amis. Chacun y participe un peu en achetant quelque chose à boire ou à manger.
Répondez à la question 3 et étudiez 4 et 5.
Je suis fort en mathématiques. Je pourrais donc faire une école d'ingénieur, par exemple. Mais cela ne m'intéresse pas vraiment. Après mon bac, je vais m'orienter vers quelque chose qui me passionne, le théâtre. Je sais que c'est un choix risqué, parce que je n'aurai sans doute pas un salaire régulier, comme si j'étais ingénieur. En tout cas, je refuse absolument de faire quelque chose qui ne me plaît pas. Mais évidemment, j'espère quand même que mon futur métier me permettra de vivre correctement. C'est-à-dire d'avoir un appartement qui me plaise vraiment, acheté ou loué, peu importe, et de mener une vie normale. J'aimerais juste gagner assez pour qu'il me reste un peu d'argent pour mes loisirs.
Répondez aux questions 4 et 5. La deuxième partie de l'épreuve comprend deux dialogues entre Sophie et Marc. Vous entendrez chaque dialogue deux fois de suite. Étudiez les questions 6 et 7. Voici le premier dialogue.
Il y en a encore pour longtemps.
Il est 4 heures. Il faut patienter encore 2 heures.
Ouais, ben j'espère que ça va passer vite. Je ne suis vraiment pas rassurée avec cette tempête.
Allons, mon grand bébé. Faut pas avoir peur comme ça. Les accidents sont beaucoup plus rares en bateau qu'en voiture, par exemple.
Oui, mais ils sont encore plus rares en avion. Et puis d'abord, pourquoi on n'a pas pris l'avion ? Dis-le-moi, toi qui es si brave.
Oh, tu sais bien que le bateau, c'est plus romantique.
Il n'y aurait pas une autre raison ?
Ok. Bon, toi, tu as peut-être peur sur la mer, mais moi, je suis terrifiée dans les airs.
Ah, tu avoues, enfin.
Deuxième écoute.
Il y en a encore pour longtemps.
Il est 4 heures. Il faut patienter encore 2 heures.
Ouais, ben j'espère que ça va passer vite. Je ne suis vraiment pas rassurée avec cette tempête.
Allons, mon grand bébé. Faut pas avoir peur comme ça. Les accidents sont beaucoup plus rares en bateau qu'en voiture, par exemple.
Oui, mais ils sont encore plus rares en avion. Et puis d'abord, pourquoi on n'a pas pris l'avion ? Dis-le-moi, toi qui es si brave.
Oh, tu sais bien que le bateau, c'est plus romantique.
Il n'y aurait pas une autre raison ?
Ok. Bon, toi, tu as peut-être peur sur la mer, mais moi, je suis terrifiée dans les airs.
Ah, tu avoues, enfin.
Répondez aux questions 6 et 7 et étudiez 8 et 9. Voici le deuxième dialogue.
Dis-moi, Marc, si on allait au restaurant ce soir ?
Ah, je peux pas. J'ai promis à Laurent de l'accompagner au cinéma.
Oh, t'aurais pu me le dire quand même. Je croyais qu'on vivait ensemble.
Ah, excuse-moi. Je croyais que je te l'avais dit. Mais je peux appeler Laurent pour lui expliquer que tu veux aller au resto.
Oh oui, merci. Comme ça, moi, je vais passer pour un dictateur.
Mais non. Et puis de toute façon, c'est la vérité.
Hein?
Non, je veux dire, c'est vrai que tu veux aller au restaurant avec moi.
Non, c'était vrai. Maintenant, crois-moi, tu peux faire ce que tu veux.
Deuxième écoute.
Dis-moi, Marc, si on allait au restaurant ce soir?
Ah, je peux pas. J'ai promis à Laurent de l'accompagner au cinéma.
Oh, t'aurais pu me le dire quand même. Je croyais qu'on vivait ensemble.
Ah, excuse-moi. Je croyais que je te l'avais dit. Mais je peux appeler Laurent pour lui expliquer que tu veux aller au resto.
Oh oui, merci. Comme ça, moi, je vais passer pour un dictateur.
Mais non. Et puis de toute façon, c'est la vérité.
Hein?
Non, je veux dire, c'est vrai que tu veux aller au restaurant avec moi.
Non, c'était vrai. Maintenant, crois-moi, tu peux faire ce que tu veux.
Répondez aux questions 8 et 9. La troisième partie de l'épreuve est l'interview du grand chef français Paul Bocuse, qui va avoir 84 ans. Vous entendrez l'interview d'abord en entier, puis en plusieurs sections. Voici l'interview en entier.
Monsieur Bocuse, vous sortez de l'hôpital. Comment allez-vous?
Depuis mon opération du cœur, je vois la vie autrement. J'ai un peu moins d'appétit, j'ai du mal à me concentrer. Mais finalement, je sais que la mort, ça arrive à tout le monde. C'est une chose naturelle qui ne m'inquiète pas. Et d'autre part, je sais que dans 20 ans, Paul Bocuse sera encore là, puisque c'est le nom de mon petit-fils, qui n'a aujourd'hui que 2 ans et demi. Alors la mort...
Que pensez-vous des jeunes chefs d'aujourd'hui?
Ce que je vois, c'est qu'ils ont plus de problèmes que nous. Aujourd'hui, il y a trop de règles, trop d'exigences, trop de pression. Les jeunes chefs, il y en a que j'aime bien, même s'ils n'ont plus les mêmes valeurs que moi. Moi, j'aime les plats authentiques, sans complications inutiles. Quand je commande un poulet, je n'ai pas besoin d'explications pour savoir d'où il vient ou comment il est préparé. Mon repas idéal, c'est un plat unique, comme un pot-au-feu, partagé avec 2 ou 3 copains. Pour moi, c'est ça le bonheur.
Existe-t-il une recette que vous voudriez encore améliorer?
Un bon chef ne travaille pas en respectant à la lettre une recette qu'il a écrite. Moi, j'écoute toujours mon instinct, mon intuition. Il faut plutôt la laisser vivre, la recette. De toute façon, on ne cuisine jamais 2 fois de la même manière.
Vous vous considérez donc comme un créateur?
Oh, vous savez, en fait, parfois, quand je vois sur des menus que certains chefs se présentent comme artistes culinaires, ça me fait sourire. Quelle prétention! Non, nous ne sommes que de simples artisans, des travailleurs manuels qui aimons notre métier. Pour moi, le plus beau moment, c'est quand j'entre dans la cuisine de mon restaurant et que je sens l'odeur des produits frais que je vais utiliser pour composer un repas.
Étudiez la question 10.
Monsieur Bocuse, vous sortez de l'hôpital. Comment allez-vous?
Depuis mon opération du cœur, je vois la vie autrement. J'ai un peu moins d'appétit, j'ai du mal à me concentrer. Mais finalement, je sais que la mort, ça arrive à tout le monde. C'est une chose naturelle qui ne m'inquiète pas. Et d'autre part, je sais que dans 20 ans, Paul Bocuse sera encore là, puisque c'est le nom de mon petit-fils, qui n'a aujourd'hui que 2 ans et demi. Alors la mort...
Répondez à la question 10 et étudiez 11 et 12.
Que pensez-vous des jeunes chefs d'aujourd'hui ?
Ce que je vois, c'est qu'ils ont plus de problèmes que nous. Aujourd'hui, il y a trop de règles, trop d'exigences, trop de pression. Les jeunes chefs, il y en a que j'aime bien, même s'ils n'ont plus les mêmes valeurs que moi. Moi, j'aime les plats authentiques, sans complications inutiles. Quand je commande un poulet, je n'ai pas besoin d'explications pour savoir d'où il vient ou comment il est préparé. Mon repas idéal, c'est un plat unique, comme un pot-au-feu, partagé avec 2 ou 3 copains. Pour moi, c'est ça le bonheur.
Répondez aux questions 11 et 12 et étudiez 13 et 14.
Existe-t-il une recette que vous voudriez encore améliorer ?
Un bon chef ne travaille pas en respectant à la lettre une recette qu'il a écrite. Moi, j'écoute toujours mon instinct, mon intuition. Il faut plutôt la laisser vivre, la recette. De toute façon, on ne cuisine jamais 2 fois de la même manière.
Vous vous considérez donc comme un créateur ?
Oh, vous savez... En fait, parfois, quand je vois sur des menus que certains chefs se présentent comme artistes culinaires, ça me fait sourire. Quelle prétention ! Non, nous ne sommes que de simples artisans, des travailleurs manuels qui aimons notre métier. Pour moi, le plus beau moment, c'est quand j'entre dans la cuisine de mon restaurant et que je sens l'odeur des produits frais que je vais utiliser pour composer un repas.
Répondez aux questions 13 et 14. La 4e partie de l'épreuve est l'interview de l'acteur Clovis Cornillac qui a interprété Astérix au cinéma. Vous entendrez l'interview d'abord en entier, puis en plusieurs sections. Voici l'interview en entier.
Clovis, comment était ton lycée ? Sympa ?
Très. C'était un lycée où on allait en cours seulement l'après-midi.
Le matin, on pratiquait des activités artistiques ou sportives. Il y avait beaucoup de danseurs. Moi, je jouais de la trompette. Très mal, il faut bien l'avouer. Et puis, je faisais de la boxe 3 fois par semaine. J'aimais la beauté des mouvements dans ce sport.
Quel genre d'élève étais-tu ?
Souvent absent et pas très sérieux. Je faisais mes devoirs dans l'escalier, 5 minutes avant d'entrer en classe. Résultat, j'obtenais souvent de mauvaises notes. Mais j'ai quand même réussi à ne redoubler qu'une classe. Et puis, 2 ans avant le bac, j'ai laissé tomber. J'en avais marre de l'école. Je voulais vivre.
Quelles étaient tes matières favorites ?
J'aimais bien les maths, mais je n'avais pas de bonnes notes, parce que je trouvais toujours le bon résultat, mais avec ma logique à moi, sans utiliser les formules classiques. J'ai aussi de bons souvenirs des cours d'espagnol. En fait, je ne parlais pas un seul mot d'espagnol, mais j'étais très copain avec mon prof. Il était aussi musicien et il m'invitait à ses concerts. En français, je faisais beaucoup de fautes d'orthographe, mais les profs me félicitaient pour mes bonnes idées.
Est-ce que ça a été un grand changement pour toi d'abandonner l'école ?
Oh, pas vraiment. Je me suis comporté très tôt comme un adulte. À 14 ans, je suis parti de chez mes parents et j'ai loué une chambre. Ma mère a respecté mon choix. Pendant mes dernières années d'école, je travaillais comme serveur. Ensuite, entre 15 et 16 ans, j'ai commencé à gagner ma vie en tant que comédien au cinéma.
Dans quel film ?
J'ai d'abord tourné 2 téléfilms. Puis j'ai tenu le rôle principal du film « Hors-la-loi ». À l'époque, c'était le plus gros budget du cinéma français, même s'il n'y avait aucune star. Les producteurs avaient voulu engager des jeunes un peu chauds, un peu voyous, des bagarreurs comme moi, quoi. Le tournage a été chaotique. La police nous surveillait tout le temps. On faisait n'importe quoi, on cassait tout dans les hôtels.
Professionnellement, que s'est-il passé ensuite ?
J'ai travaillé pour le théâtre, comme mes parents. Entre 17 et 19 ans, j'ai joué dans le Mahabharata de Peter Brook. C'était une pièce hors norme, 12 heures sur scène pour chaque représentation. Pendant 1 an, on avait répété en Inde. Ah, le lever du soleil sur le Gange, les énormes serpents, j'en garde un souvenir incroyable. Je n'ai sans doute pas eu une adolescence comme les autres, mais je ne m'en plains pas. Bien au contraire.
Étudiez les questions 15 et 16.
Clovis, comment était ton lycée ? Sympa ?
Très. C'était un lycée où on allait en cours seulement l'après-midi. Le matin, on pratiquait des activités artistiques ou sportives. Il y avait beaucoup de danseurs. Moi, je jouais de la trompette. Très mal, il faut bien l'avouer. Et puis, je faisais de la boxe 3 fois par semaine. J'aimais la beauté des mouvements dans ce sport.
Quel genre d'élève étais-tu ?
Souvent absent et pas très sérieux. Je faisais mes devoirs dans l'escalier, 5 minutes avant d'entrer en classe. Résultat, j'obtenais souvent de mauvaises notes. Mais j'ai quand même réussi à ne redoubler qu'une classe. Et puis 2 ans avant le bac, j'ai laissé tomber. J'en avais marre de l'école. Je voulais vivre.
Répondez aux questions 15 et 16. Et étudier 17 et 18.
Quelles étaient tes matières favorites ?
J'aimais bien les maths, mais je n'avais pas de bonnes notes, parce que je trouvais toujours le bon résultat, mais avec ma logique à moi, sans utiliser les formules classiques. J'ai aussi de bons souvenirs des cours d'espagnol. En fait, je ne parlais pas un seul mot d'espagnol, mais j'étais très copain avec mon prof. Il était aussi musicien et il m'invitait à ses concerts. En français, je faisais beaucoup de fautes d'orthographe, mais les profs me félicitaient pour mes bonnes idées.
Est-ce que ça a été un grand changement pour toi d'abandonner l'école ?
Oh, pas vraiment. Je me suis comporté très tôt comme un adulte. À 14 ans, je suis parti de chez mes parents et j'ai loué une chambre. Ma mère a respecté mon choix. Pendant mes dernières années d'école, je travaillais comme serveur. Ensuite, entre 15 et 16 ans, j'ai commencé à gagner ma vie en tant que comédien au cinéma.
Répondez aux questions 17 et 18 et étudiez 19 et 20.
Dans quel film ?
J'ai d'abord tourné deux téléfilms, puis j'ai tenu le rôle principal du film Hors-la-loi. À l'époque, c'était le plus gros budget du cinéma français, même s'il n'y avait aucune star. Les producteurs avaient voulu engager des jeunes un peu chauds, un peu voyous, des bagarreurs comme moi, quoi. Le tournage a été chaotique. La police nous surveillait tout le temps. On faisait n'importe quoi, on cassait tout dans les hôtels.
Professionnellement, que s'est-il passé ensuite ?
J'ai travaillé pour le théâtre, comme mes parents. Entre 17 et 19 ans, j'ai joué dans le Mahabharata de Peter Brook. C'était une pièce hors norme, 12 heures sur scène pour chaque représentation. Pendant un an, on avait répété en Inde. Ah, le lever du soleil sur le Gange, les énormes serpents, j'en garde un souvenir incroyable. Je n'ai sans doute pas eu une adolescence comme les autres, mais je ne m'en plains pas. Bien au contraire.
Répondez aux questions 19 et 20. La cinquième partie de l'épreuve est composée de 4 dialogues. Vous entendrez chaque dialogue une seule fois. Étudiez la question 21.
Salut Bastien, tout va bien ? Comme on devait aller au cinéma, j'ai essayé de t'appeler plusieurs fois mais tu n'as jamais répondu. Alors je commençais à m'inquiéter.
Oh, je suis désolé. J'avais complètement oublié qu'on avait prévu de se voir. En fait, je suis parti à la campagne avec des copains et j'ai oublié mon portable à la maison. Mais en tout cas, cette petite sortie m'a vraiment fait du bien. On a fait du jardinage, on a dormi tard... On a bien mangé. Bref, j'ai laissé les études et le stress en ville.
Ah bah tant mieux pour toi. Moi, j'ai rien fait.
Répondez à la question 21 et étudiez 22.
Caroline, je peux te demander un service ?
Oui, enfin, ça dépend de ce que tu veux.
Eh bien, tu te souviens sûrement que je suis allé en vacances en Finlande. J'ai habité dans une famille finlandaise super sympa. Maintenant, Anna, leur fille de 20 ans, va venir passer une dizaine de jours chez mes parents. Le problème, c'est que je serai à l'étranger le week-end où elle arrive.
Ah oui, je commence à comprendre. Tu te dis que je pourrais m'occuper à ta place de cette fille que je ne connais absolument pas.
Répondez à la question 22 et étudiez 23.
Allô, oui ?
Salut, Caro. Tu veux pas qu'on sorte un peu ? Il fait un temps superbe. On pourrait aller pique-niquer sur les quais de la Seine.
Oui, bien sûr, mais on l'a déjà fait 1000 fois.
Bon, laisse-moi réfléchir un peu. Qu'est-ce que tu dirais d'un tour au marché aux puces ? J'aurais besoin d'une paire de baskets et c'est moins cher là-bas que dans les magasins.
Ah ça, c'est une bonne idée. Même si moi, je n'ai besoin de rien. On se retrouve au métro dans un quart d'heure ?
Répondez à la question 23 et étudiez 24.
Bastien, j'aimerais bien qu'on parle un peu de ton avenir.
Ah non, écoute, maman, pour le moment, je prépare le bac. Je peux pas tout faire en même temps.
Mais tu sais, c'est important de réfléchir aux différentes possibilités professionnelles.
Mais je parle de tout ça avec mes copains. On est tous dans la même situation. On se comprend et on peut se donner des idées. Toi, tu vis dans un monde de dinosaures.
Mais mon point de vue peut compléter celui de tes copains. Et puis, je suis ta maman. Ton avenir me concerne, mon chéri.
Répondez à la question 24. Dans la dernière partie de l'épreuve, trois artisans nous parlent de leur métier. Vous entendrez chaque récit deux fois. Écrivez vos réponses sur la face A de la feuille réponse. Dans le premier récit, vous allez entendre Yvonne, qui est artisan photographe. Voici son récit en entier.
Ce qui m'a donné l'envie de devenir photographe, c'est le côté magique de la technique traditionnelle qu'on utilisait pour développer les photos. Vous savez, dans une chambre noire, on mettait de la lumière sur un papier blanc, on mettait ce papier blanc dans de l'eau, et ensuite, on voyait apparaître l'image. C'était extraordinaire. Donc, c'est ça qui m'a décidée. Malheureusement, tout ça s'est un peu oublié aujourd'hui. On ne travaille plus qu'avec les appareils numériques. Aux jeunes qui veulent devenir photographes, je leur dirais que la première chose, c'est de faire des images, c'est de faire beaucoup de photos. Et si on sent que le meilleur moyen pour s'exprimer, c'est l'appareil photo, on est tout simplement photographe. C'est seulement après qu'on va parler technique, quelle formation suivre.
Étudiez la question A.
« Ce qui m'a donné l'envie de devenir photographe, c'est le côté magique de la technique traditionnelle qu'on utilisait pour développer les photos. Vous savez, dans une chambre noire, on mettait de la lumière sur un papier blanc, on mettait ce papier blanc dans de l'eau, et ensuite, on voyait apparaître l'image. C'était extraordinaire. Donc, c'est ça qui m'a décidée. Malheureusement, tout ça s'est un peu oublié aujourd'hui. On ne travaille plus qu'avec les appareils numériques.
Répondez à la question A et étudiez la question B.
Aux jeunes qui veulent devenir photographes, je leur dirais que la première chose, c'est de faire des images, c'est de faire beaucoup de photos. Et si on sent que le meilleur moyen pour s'exprimer, c'est l'appareil photo, on est tout simplement photographe. C'est seulement après qu'on va parler technique, quelle formation suivre.
Répondez à la question B. Dans le deuxième récit, vous allez entendre Yannick, qui est artisan crêpier. Voici son récit en entier.
Je suis un artisan qui prépare des crêpes et des galettes. Il faut savoir que chez moi, en Bretagne, quand même, la crêpe et la galette, c'est une partie essentielle de notre culture. Et je veux continuer cette tradition. Même si le travail de crêpier, c'est un travail où il ne faut pas compter ses heures. Nos journées de travail, c'est plutôt 12 heures que 8 heures. Mais moi, j'ai choisi mon métier surtout pour avoir une relation avec les gens. Vous savez, c'est vraiment un moment de bonheur pour nous, les crêpiers, quand on voit la réaction des clients quand ils découvrent leurs crêpes ou leurs galettes joliment décorées. On peut vraiment donner du plaisir avec une crêpe.
Étudiez la question C.
Je suis un artisan qui prépare des crêpes et des galettes. Il faut savoir que chez moi, en Bretagne, quand même, la crêpe et la galette, c'est une partie essentielle de notre culture. Et je veux continuer cette tradition. Même si le travail de crêpier, c'est un travail où il ne faut pas compter ses heures. Nos journées de travail, c'est plutôt 12 heures que 8 heures.
Répondez à la question C et étudiez la question D.
Mais moi, j'ai choisi mon métier surtout pour avoir une relation avec les gens. Vous savez, c'est vraiment un moment de bonheur pour nous, les crêpiers, quand on voit la réaction des clients quand ils découvrent leurs crêpes ou leurs galettes joliment décorées. On peut vraiment donner du plaisir avec une crêpe.
Répondez à la question D. Le dernier récit est celui de Sonia, qui est artisan bijoutier. Voici son récit en entier.
Alors, j'ai eu l'idée de ce métier grâce à mon grand-père, qui était bijoutier. Ce qui me plaît, c'est de fabriquer quelque chose à partir d'une boule de métal, et puis ensuite d'avoir fait, par exemple, une bague à la fin. Pour moi, c'est ça le plus important, c'est de créer quelque chose. En fait, à l'avenir, j'aimerais me concentrer sur mes propres créations, faire des bijoux un peu plus artistiques, et puis, dans 2 ou 3 ans, je voudrais avoir ma propre boutique. On verra. Pour le moment, ce ne sont que des projets.
Étudiez la question E.
Alors, j'ai eu l'idée de ce métier grâce à mon grand-père, qui était bijoutier. Ce qui me plaît, c'est de fabriquer quelque chose à partir d'une boule de métal, et puis ensuite d'avoir fait, par exemple, une bague à la fin. Pour moi, c'est ça le plus important, c'est de créer quelque chose. En fait, à l'avenir, j'aimerais me concentrer sur mes propres créations, faire des bijoux un peu plus artistiques, et puis, dans 2 ou 3 ans, je voudrais avoir ma propre boutique. On verra. Pour le moment, ce ne sont que des projets.
Répondez à la question E. Nous voici à la fin de l'épreuve. Vous avez encore 8 minutes pour porter vos réponses sur le formulaire à lecture optique et pour revoir vos réponses écrites sur la feuille réponse. N'oubliez pas les renseignements qu'on vous demande. Merci.